Bonjour à tous et bienvenue dans Il était une science, la nouvelle émission scientifique de Transistor, dans laquelle je vous propose un voyage à travers l'histoire des sciences, à la découverte des grands noms, des grands chercheurs et des grandes chercheuses qui ont contribué à l'élaboration de la science telle que nous la connaissons aujourd'hui, à la découverte des obstacles qu'ils ont dû franchir, des interrogations qu'ils se sont posées et de la découverte finalement qui les a menés à la célébrité ou que l'histoire a malheureusement oublié depuis.
Il était une science.
Et dans ce premier épisode, nous allons suivre les traces de tous ceux qui ont contribué à nous faire mieux comprendre de quoi est constituée la matière qui nous entoure. Grèce antique, 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, dans l'Antiquité grecque, la vision du monde et de la matière est marquée par l'opposition entre deux théories qui sont très différentes, qui sont les théories de Parménide et d'Héraclite, qui traitent de l'immuabilité de la matière. Selon Héraclite, la matière n'est absolument pas immuable, justement, et va se modifier en permanence, alors que Parménide est partisan d'un monde stable et qui ne bouge pas. Et finalement, pour lui, toutes les transformations qu'on peut observer au quotidien ne sont que des transformations éphémères et superficielles. Profondément, les choses ne changent pas. Et finalement, ces deux philosophes, pour accorder leur vision de la matière à leur vision du monde tout entier, vont recourir à des éléments. C'est-à-dire qu'Héraclite va considérer que tout est constitué de feu, qui est le principe moteur de toute action, de toute création, de toute destruction, et qui va expliquer finalement les transformations de l'univers en permanence, alors que Parménide va plutôt utiliser la terre comme élément principal et le feu comme élément supplémentaire qui va correspondre aux transformations superficielles. Et par exemple expliquer, puisque pour Parménide, le monde était divisé, le monde de la Terre était sphérique au centre de l'univers, et était divisé en plusieurs zones climatiques qui correspondaient aux différentes zones où le feu était plus ou moins présent, plus ou moins actif. C'est ensuite Empédocle qui va réutiliser cette idée des éléments pour expliquer la constitution de la matière. Il va proposer finalement que la matière tout entière est constituée de quatre éléments fondamentaux, qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air, et que ces quatre éléments fondamentaux peuvent créer, peuvent constituer n'importe quel objet, n'importe quel élément, dès lors qu'ils sont mélangés en proportions particulières. Et ces éléments peuvent se transformer les uns dans les autres, par exemple, l'eau peut s'évaporer et devenir air sous l'action du feu, etc. Et pour construire un début logique à l'univers, Empédocle va considérer que ces quatre principes sont issus d'un principe premier, auquel il ne donne pas de nom particulier, un principe premier qui se serait scindé en quatre et aurait permis de constituer la matière telle que nous la connaissons. À la suite des idées d'Empédocle sur les quatre éléments constitutifs de la matière, un cinquième élément va être imaginé. Pour expliquer, en fait, puisque dans la théorie d'Empédocle, tous les éléments peuvent se transformer l'un dans l'autre et se mélanger en proportions variables, mais il reste à expliquer l'immuabilité totale de la sphère céleste que les Grecs observent, une sphère qui ne bouge pas, enfin qui tourne, mais qui ne se transforme pas au fil du temps. Et donc un cinquième élément va être inventé, qui est nommé la quintessence, qui va être considéré comme l'élément constitutif de cette sphère céleste qui entoure la Terre, qui constitue l'ensemble de l'univers autour du monde. Voilà, donc on a dans l'Antiquité grecque une idée assez générale de la formation de la matière, et Platon va rajouter de l'eau au moulin en remarquant une coïncidence assez stupéfiante. On a cinq éléments fondamentaux. Il existe également cinq polyèdres réguliers, puisque Platon était entre autres géomètre. Ces polyèdres réguliers sont d'ailleurs maintenant nommés les solides de Platon. Il s'agit du tétraèdre, de l'octaèdre, de l'icosaèdre, du cube et du dodécaèdre. Et ces cinq éléments, enfin pardon, ces cinq polyèdres peuvent être mis en relation directe avec les cinq éléments. Voilà pour le lapsus. Puisque le tétraèdre, l'octaèdre et l'icosaèdre sont tous les trois formés de faces à partir de faces triangulaires. Et on avait bien remarqué que les trois éléments feu, eau et air sont les éléments qui se transmutent le plus facilement l'un dans l'autre. Et Platon explique tout simplement ce phénomène par voilà la reconstitution de polyèdres à partir des faces fondamentales qui sont les triangles. Donc Platon finalement considère qu'il existe des éléments encore plus petits que ce qu'on tenait jusqu'ici pour les éléments fondamentaux, les éléments constitutifs fondamentaux de la matière. On arrive ensuite au cube, qui par sa structure un peu plus stable, on va dire, que les trois précédents, va être associé à la Terre. Et quant à la quintessence, elle sera représentée par le dodécaèdre, que Platon considère comme la forme parfaite. Donc celle qui est constituée de des faces les plus complexes, qui sont des pentagones, et qui est absolument impossible à modifier, d'autant plus qu'elle a pratiquement la forme d'une sphère, ce qui correspond particulièrement à l'idée qu'on se faisait de la quintessence, qui était censée constituer justement la sphère céleste que les Grecs observaient. Alors cette théorie de la constitution de la matière au travers de cinq éléments va être en particulier reprise par Aristote, qui va la synthétiser et en particulier rejeter l'idée de transformation définitive entre éléments. C'est-à-dire que si un élément se transforme, il reprendra toujours sa forme d'origine, aboutissant à des mouvements naturels finalement qui s'expliquent de cette façon. Et finalement, ce qui est important pour Aristote et pour la plupart des Grecs, en fait, c'est qu'il n'y a pas dans cette théorie de place pour le vide. Les Grecs rejetaient farouchement l'existence du vide, qui leur était vraiment inconcevable. Et c'est en particulier pour cela que la théorie atomistique de Démocrite, qu'on connaît bien actuellement, puisque voilà, Démocrite c'est l'inventeur de la notion d'atome, cette théorie en fait reposait sur l'existence du vide. Puisque pour Démocrite, toute la matière est constituée d'atomes insécables, tous identiques, qui s'assemblent selon des structures en fait, et dans des proportions différentes pour créer toute la matière. Eh bien, on a besoin de vide dans cette théorie pour expliquer les différences de densité entre, par exemple, un caillou et juste de l'eau, qui sont après tout tous les deux constitués d'atomes, mais le caillou, on ne peut pas passer la main à travers parce que les atomes sont trop rapprochés, alors que dans l'eau, il y a du vide à travers lequel la main peut passer, et cette existence du vide était vraiment rejetée par la plupart des penseurs grecs qui ne pouvaient pas concevoir son existence. Alors cette première partie assez longue sur la vision de la matière par les Grecs et la théorie d'Aristote était finalement assez importante parce que la chimie moderne s'est construite en opposition à cette théorie. Europe. Fin du XVIIIe siècle et début du XIXe. De très nombreuses incohérences dans la théorie d'Aristote ont pu être relevées dès la fin de l'Antiquité, mais jusqu'à la Renaissance, et donc cette théorie a subi des ajouts, des soustractions, a été quelque peu remaniée, et c'est Antoine de Lavoisier qui a mis un point final à cette théorie en détruisant finalement l'un après l'autre les quatre éléments de la théorie d'Aristote. On savait déjà que la Terre était en réalité formée de plusieurs types de minéraux, mais c'est en particulier sur le feu, qui avait reçu le nouveau nom de phlogistique entre-temps, que Lavoisier a concentré ses travaux. Selon la nouvelle théorie remaniée, chaque objet contenait une certaine quantité de phlogistique qui était utilisée pour permettre sa combustion. Donc, dans la théorie, une fois un objet brûlé, il a épuisé tout son phlogistique et donc doit contenir moins de masse, être moins lourd. Lavoisier a montré que, au contraire, lors de la combustion d'un objet, il gagnait quelque chose. Et il a eu la géniale intuition de faire intervenir l'air ambiant dans cette réaction. Il a mis en évidence le fait que un constituant particulier de l'air, qu'il a nommé oxygène, était entièrement consommé lors de la combustion d'un objet dans une enceinte close. Encore plus fort, on savait déjà séparer l'eau lors de son évaporation en deux types d'air. Et Lavoisier a découvert que l'air consommé, cet oxygène consommé lors de la combustion, était un des deux constituants de l'eau, et il a nommé l'autre élément hydrogène en référence à sa capacité à créer de l'eau. Quelques années plus tard, et de l'autre côté de la Manche, John Dalton publia en 1808 sa théorie atomique, où il reprenait pour la première fois depuis l'Antiquité, la théorie atomique de Démocrite, en la modifiant et en expliquant que les atomes n'étaient pas tous identiques, mais qu'il y avait différents types d'atomes qui, en se combinant, pouvaient former tous les états de la matière. En s'inspirant des travaux de Lavoisier, Dalton a listé plusieurs types d'atomes de base, comme l'hydrogène, l'oxygène, mais aussi l'azote ou le carbone, et a énoncé une loi fondamentale qui est la loi des proportions multiples. C'est-à-dire que Dalton s'est rendu compte que lors de la combinaison d'hydrogène et d'oxygène pour former de l'eau, il y avait un rapport précis de masse qui s'établissait entre la quantité de réactifs et la quantité de produits, comme on les appellera plus tard. Et il a donc pu mettre en évidence, par exemple, que l'eau était constituée à deux tiers d'hydrogène pour un tiers d'oxygène. Alors, quelques années plus tard, en 1811, c'est Amadeo Avogadro qui va inventer le concept de molécule pour expliquer plus précisément la constitution des éléments. Il explique que si les atomes de Dalton sont bien les éléments de base de la matière, l'eau est quant à elle composée de particules élémentaires, qui sont les molécules et qui sont elles-mêmes formées d'atomes indivisibles. Et donc la molécule d'eau, que Avogadro va pouvoir noter H2O, est bien constituée de deux atomes d'hydrogène, H, et d'un atome d'oxygène, O. Tous les corps dits purs, nous dit Avogadro, sont des corps qui sont formés d'un seul type de molécules, molécules qui se réduisent éventuellement à un unique atome. Alors plus tard, on va oublier un peu la dénomination d'Avogadro et on n'emploiera jamais le terme molécule quand celle-ci se réduit à un unique atome, mais bien pour les combinaisons de plusieurs atomes. Et c'est le chimiste russe Mendeleïev, 60 ans après les travaux de Dalton, qui va réussir à écrire une table, une classification périodique de tous ces éléments, qui met en évidence les similarités chimiques des éléments. Par exemple, le carbone et le silicium ont des propriétés chimiques très semblables. Donc, dans le tableau périodique de Mendeleïev, ils sont situés sur la même colonne. Alors, en plus de proposer un classement à la pléthore d'éléments qui étaient découverts depuis Dalton, le tableau de Mendeleïev avait la propriété stupéfiante d'arriver à prédire l'existence et les propriétés d'éléments pour l'instant inconnus. C'est-à-dire qu'en étendant le tableau, par exemple en augmentant d'une case une colonne, on savait qu'il existait quelque part, qu'on pouvait découvrir un élément possédant les mêmes propriétés chimiques que les éléments de sa colonne, mais étant plus lourd que les précédents. De manière un peu anecdotique, un exemple classique de prédiction puis de découverte d'un élément a été l'élément que Mendeleïev avait appelé l'éca-aluminium, c'est-à-dire l'élément situé hypothétiquement juste en dessous de l'aluminium dans la table périodique. Cet élément a effectivement été découvert en 1875 par un Français, un certain Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran, qui, en référence à son propre nom de famille, Lecoq, a décidé d'appeler cet élément gallium. Il y voyait également une référence à la France, sa patrie. Et l'élément suivant a été découvert par un Allemand qui, par mimétisme, a décidé de l'appeler germanium. On a ensuite eu le scandium découvert par un Suédois, et tous ces éléments avaient en fait été prédits auparavant par Mendeleïev grâce à son tableau périodique. Alors maintenant que la chimie moderne est apparue, s'est développée et a connu un de ses premiers grands succès avec la table périodique de Mendeleïev, les physiciens vont prendre le relais et tenter d'expliquer la structure des atomes que les chimistes ont classifiés. Et donc, pour la suite de l'histoire de l'atome, rendez-vous dans la deuxième partie de cette émission. Alors maintenant que nous savons que la matière est constituée d'atomes qui se regroupent en molécules, et que ces atomes ont été bien classés par Mendeleïev dans sa table périodique, les physiciens ont cherché à expliquer les raisons du comportement des atomes, leur mode de fonctionnement, pourquoi les atomes d'une même colonne dans la table ont des propriétés chimiques similaires. Donc pour décrire les expériences qui ont été effectuées pour répondre à toutes ces questions, nous allons faire un petit saut en avant dans l'histoire des sciences. Début du XXe siècle. Alors c'est à la fin du 19e siècle, en 1897, que Joseph John Thomson va faire une découverte capitale qui est la découverte de l'électron. Alors l'électron, c'est une particule qui, nous dit Thomson, est à l'origine de toute l'électricité. C'est une particule chargée qui va véhiculer les courants, qui va être responsable des phénomènes d'électricité statique. Et le plus important, c'est que, en fait, les électrons sont des constituants des atomes. Et l'électron est même un composant essentiel de l'atome, parce qu'en fait, on se rend compte que dans la table périodique de Mendeleïev, la place des atomes correspond exactement au nombre d'électrons qu'ils contiennent. C'est-à-dire que quand on avance dans le tableau périodique, on trouve des atomes qui, dans leur état initial, ont donc un électron pour l'hydrogène, deux pour l'hélium, trois pour le lithium, etc. Alors, suite à cette découverte, Thomson a proposé un modèle simpliste de l'atome, parce que les électrons sont chargés négativement, mais on sait que l'atome est globalement neutre électriquement. Donc, Thomson va proposer une vision de l'atome comme une substance positive, enfin chargée positivement, et qui serait, d'après certaines expériences dont on va reparler, qui serait perméable, dans laquelle nagent des électrons chargés négativement et qui assurent comme ceci la neutralité électrique de l'ensemble. Alors, on a beaucoup critiqué ce modèle, on s'est beaucoup moqué de lui en parlant du caïque aux électrons de Thomson, mais ce qui est important, c'est que c'est la première fois depuis la création de l'atome, finalement, qu'on découvre qu'il y a une structure interne à cet atome et que ce n'est pas une unité insécable comme le pensait Démocrite. Et donc, à partir d'ici, de nombreux physiciens vont faire des expériences pour percer les secrets de cette structure interne. Et c'est en 1911 que Ernest Rutherford va effectuer une expérience historique. Il va prendre une feuille d'atome d'or et bombarder cette feuille avec des particules alpha. Alors, comme on le savait, les particules alpha vont traverser cette feuille. C'est à cause de ce fait que Thomson avait postulé que la substance positive à l'intérieur de l'atome était perméable, parce qu'on savait qu'il y avait des choses qui traversaient les couches d'atomes. Mais ce à quoi Rutherford ne s'attendait pas, et il en a parlé plus tard comme l'événement le plus incroyable qui lui soit jamais arrivé, c'est que certaines particules alpha ont rebondi sur la feuille. Et donc, à partir de ça, Rutherford a proposé un nouveau modèle de l'atome, qui serait cette fois non plus entièrement perméable, mais constitué d'un noyau dur positif, hein, puisque comme Thomson, Rutherford a besoin d'un élément positif dans l'atome pour contrebalancer les électrons, et donc un noyau dur positif qui attire les électrons négatifs qui du coup gravitent autour de lui, comme la Lune gravite autour de la Terre. Ensuite, à partir des mesures statistiques de Rutherford sur le nombre de particules alpha qui traversent ou ne traversent pas la feuille d'or, on peut estimer un rapport entre la taille du noyau et la taille de l'atome tout entier. Et le résultat, qui est assez impressionnant, est que si on ramène le noyau à la taille d'une pomme, par exemple, eh bien, les électrons vont graviter autour de cette pomme à 1 km de distance. Alors ce noyau va permettre d'expliquer un peu plus précisément pourquoi le nombre d'électrons d'un atome semblait être en lien avec sa place dans le tableau périodique de Mendeleïev. On a vu qu'il fallait assurer la neutralité électrique globale d'un atome, et donc que le noyau devait être chargé positivement pour s'équilibrer avec le nombre d'électrons qui gravitaient autour de lui. Mais par exemple, un atome d'hydrogène possède un électron, et donc son noyau n'a besoin d'être chargé positivement qu'à une unité, alors qu'un atome d'oxygène, qui comporte 8 électrons, doit avoir un noyau positif, mais 8 fois plus chargé qu'un simple noyau d'hydrogène. Alors, on va prendre comme base ce fameux noyau d'hydrogène, qui est le noyau de l'atome le plus simple, et on va appeler le noyau d'hydrogène proton. Et bien les physiciens vont dire que les noyaux des atomes sont constitués de regroupements de noyaux d'hydrogène, c'est les regroupements de protons, et donc que le noyau d'oxygène est constitué de 8 protons, par exemple. Et là, on peut vraiment, véritablement définir l'identité d'un atome. Le fait qu'un atome soit vraiment un atome d'oxygène, qu'il ait 8 ou 10 électrons, comme ça arrive souvent, c'est le fait que son noyau n'est composé que de 8 protons. On obtient toujours un atome d'oxygène qui est déséquilibré en charge, il a plus d'électrons que de protons, mais vu qu'il a 8 protons, c'est toujours un atome d'oxygène. Et donc finalement, les électrons ne vont plus servir qu'à expliquer les comportements chimiques des éléments. Par exemple, dans le cas de l'hydrogène et l'oxygène, bien pourquoi dans ces proportions, ces atomes s'assemblent pour former des molécules d'eau? Eh bien tout simplement parce que les atomes d'oxygène aimeraient se débarrasser de leurs électrons pour former des simples protons, et les atomes d'oxygène, eux, préféraient récupérer 2 électrons supplémentaires en plus des 8 électrons qu'ils possèdent déjà. Donc les 3 atomes vont se rassembler, mettant en commun les deux atomes d'hydrogène, prêtant chacun un électron à l'oxygène pour que tout le monde acquiert une structure plus stable que la précédente. Alors pourquoi ces atomes ont de telles préférences? Pourquoi l'hydrogène veut-il se débarrasser d'électrons alors que l'oxygène préférerait en avoir plus? Ça, les physiciens l'ignorent encore. Et là, même si l'édifice atomique semble complet et qu'il explique la plupart des phénomènes physico-chimiques qu'on a pu observer, eh bien on se rend compte que cet édifice n'est absolument pas stable. Le début du XXe siècle correspond à une période assez trouble de l'histoire de la physique, où la plupart des théories avaient été bien avancées, avaient permis un certain triomphe de la physique moderne à travers la thermodynamique, etc. Et il y a des failles béantes qui commençaient à apparaître dans la théorie et que personne n'arrivait à expliquer. Et en particulier, le modèle de l'atome qu'on a décrit possède de nombreuses lacunes. Alors, une lacune d'abord par rapport au noyau, parce que on a vu que le noyau était constitué de protons, mais ces protons sont chacun des particules qui sont positives. Et donc, comme bien les protons et les électrons s'attirent parce qu'ils sont de charge opposée, les protons du noyau entre eux devraient se repousser assez violemment, d'autant plus qu'ils sont censés être confinés dans un espace très restreint qui est celui du noyau. Donc on ne voit pas très bien comment le noyau peut être stable. On ne voit pas non plus comment les électrons peuvent se maintenir en orbite autour du noyau. On sait par la mécanique classique que dans cette situation, les électrons devraient perdre de l'énergie et finalement s'écraser sur le noyau de l'atome. Alors voilà, le modèle de l'atome a encore dû subir quelques modifications. 2 ans après Rutherford, en 1913, c'est Niels Bohr qui va proposer une amélioration du modèle atomique pour, en particulier, expliquer cette préférence des atomes à avoir plus ou moins d'électrons qu'ils ne devraient en avoir normalement. Alors Bohr va proposer un nouveau modèle de mouvement des électrons dans l'atome, en considérant que les électrons ne tournent plus librement autour du noyau attiré par les protons du noyau, mais seraient astreints à se déplacer sur des orbites précises qu'il appelle orbitales et qui se répartissent par couches autour du noyau de l'atome. Et chaque couche serait conçue pour accueillir un certain nombre d'électrons, la structure la plus stable étant atteinte lorsqu'une couche est remplie. Et ainsi, tout naturellement, on comprend pourquoi dans une molécule d'eau, les atomes d'hydrogène ont tendance à donner un électron, tandis que les atomes d'oxygène ont tendance à en récupérer 2 supplémentaires. Et bien, c'est tout simplement dans le cas de l'hydrogène pour vider sa couche externe afin d'acquérir une plus grande stabilité, et du côté de l'oxygène, au contraire, de remplir cette couche et d'atteindre le niveau d'énergie suivant. Et donc, c'est comme ça que les physiciens arrivent à expliquer tous les assemblages moléculaires qui avaient été référencés depuis Dalton, expliquer pourquoi tels atomes se liaient plus facilement avec tels atomes. En fait, c'était juste une histoire de mise en commun d'électrons pour remplir les orbitales respectives des atomes. Cette solution d'orbitales permettait aussi d'expliquer pourquoi les électrons ne tombent pas sur le noyau, puisqu'ils sont astreints à se déplacer sur ces orbites fixes. Mais on ne savait pas encore ce qui les obligeait à rester sur ces orbites. C'est la toute nouvelle mécanique quantique qui va répondre à cette question, ou en tout cas modifier légèrement le modèle de l'atome de Bohr pour expliquer ce phénomène d'orbital. Un principe très important en mécanique quantique est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui stipule que pour une particule, on ne peut pas connaître avec précision en même temps la position et la vitesse de cette particule. Et il s'avérait que le modèle de l'atome de Bohr violait cette relation d'incertitude. Donc, le nouvel atome de Bohr qui prenait en compte les considérations de la mécanique quantique laissait place à une notion de probabilité, c'est-à-dire que les électrons ne tournaient pas vraiment autour de l'atome, autour du noyau de l'atome, ils se déplaçaient en effectuant des sauts quantiques, en passant d'un endroit à l'autre instantanément, et à chaque moment, ils avaient une certaine probabilité de se trouver à un endroit plutôt qu'un autre. Et les orbitales dont parlait Bohr sont en fait des régions de la périphérie de l'atome où les électrons ont le plus de chances de se trouver à un instant donné.
L'entre-deux-guerres.
deux décennies plus tard, en 1932, c'est James Chadwick qui découvrit une nouvelle particule qu'il baptisa neutron. Alors le neutron, c'est une particule qui a beaucoup de ressemblance avec le proton. En particulier, ils ont à peu près la même masse. Leur grosse différence, c'est que si le proton est chargé positivement, le neutron n'a aucune charge électrique. Et en fait, Chadwick découvrit que les neutrons étaient également des particules constituantes de l'atome. En fait, un noyau d'atome n'est pas uniquement constitué de protons, mais d'un assemblage de protons et de neutrons. Et si les protons vont donner son identité à l'atome par leur nombre et en attirant à eux les électrons qui permettent les réactions chimiques, les neutrons vont eux pouvoir faire varier la masse de l'atome. En effet, si on rajoute un neutron, puisqu'on a toujours autant de protons, on a toujours le même atome. Cependant, on a gagné un peu de masse. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir définir les isotopes d'un atome, dont on parle le plus connu étant bien sûr le carbone 14. À l'état naturel, le carbone, c'est le carbone 12, c'est-à-dire que son noyau est composé de 6 protons et de 6 neutrons. Donc, il pèse comme 6 protons, puisqu'un proton et un neutron pèsent à peu près la même chose. Il pèse donc 12 nucléons, et on parle bien de carbone 12. En revanche, il existe des variétés de carbone, des atomes de carbone qu'on appelle des atomes de carbone 14, où cette fois-ci, le noyau est composé de 6 protons, toujours puisqu'il s'agit d'un carbone, mais de 8 neutrons. Et donc il a une masse de 14 au lieu d'avoir une masse de 12. Alors la découverte du neutron va avoir une importance capitale parce que on n'ajoute pas de nouvelles propriétés aux atomes, le neutron va être la clé de toute la physique nucléaire. Un des rêves de la physique atomique était, à l'instar des alchimistes du Moyen-Âge, de transmuter les éléments, c'est-à-dire par exemple de transformer un atome d'hydrogène en un atome d'hélium. Eh bien, avec la découverte de la nouvelle constitution du noyau, c'est-à-dire un assemblage de protons et de neutrons, cette transmutation devenait tout à coup très simple. On avait remarqué les similarités nombreuses entre les neutrons et les protons, donc il suffisait, entre guillemets, de transformer par exemple un neutron en un proton au sein d'un atome pour faire changer cet atome de case dans la table périodique des éléments. Et alors, effectivement, même si on ne peut malheureusement pas transformer de manière aussi simple le plomb en or, le plomb comporte 206 nucléons, donc 82 protons, alors que l'or ne comporte que 197 nucléons, dont 69 protons, c'est tout de même comme ceci que les transformations de fusion et de fission nucléaire ont lieu, et ces transformations dégagent une quantité considérable d'énergie qui va pouvoir être utilisée dans divers domaines, qu'ils soient militaires ou civils. C'est aussi, basiquement, le principe de fonctionnement d'une étoile. Au sein d'une étoile, 4 noyaux d'hydrogène, donc 4 protons vont se rassembler. 2 d'entre eux vont se transformer en neutrons, et les 4 nucléons vont fusionner pour former un atome d'hélium, donc composé de 2 protons, puisque c'est de l'hélium et de 2 neutrons, et cette réaction va dégager de l'énergie qui va permettre au Soleil de briller. Alors, malheureusement, le neutron n'est pas la clé de la stabilité du noyau, parce que même en présence des neutrons, les protons continuent à se repousser et devraient détruire le noyau qu'ils composent. Et donc, les physiciens ont dû introduire une nouvelle force qui s'exercerait entre les nucléons du noyau et qui s'appelle la force nucléaire ou interaction forte. Mais cette force va mettre très très longtemps avant d'être comprise. Les premiers grands travaux sur la force nucléaire ont été menés par Hideki Yukawa, qui est un physicien japonais et le premier à avoir reçu un prix Nobel. Mais malheureusement, il faudra encore attendre 1965, puis 1970, pour que les véritables mécanismes de la force nucléaire soient bien compris par les physiciens. Finalement, l'essentiel de la chimie moderne, une grande partie de notre physique actuelle, s'appuie sur les travaux qui ont permis de comprendre de mieux en mieux la structure interne de la matière, de comprendre de quoi est véritablement constitué tout ce qui nous entoure. Alors que c'était finalement une interrogation purement métaphysique dans la Grèce antique, c'est devenu aujourd'hui un outil très puissant qui nous permet de manipuler la matière au travers de la chimie, mais également de nous donner accès à d'autres formes d'énergie que celles qui existent déjà dans la nature. Et c'est aussi un ensemble de découvertes qui ont permis le développement de la physique dans des directions qu'on n'aurait jamais soupçonnées, comme c'est le cas par exemple en mécanique quantique ou en relativité. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier numéro d'Il était une science. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires sur le site de Transistor, et à la prochaine.